Bible, tablette, smartphone ou autre élément pouvant partager la parole de Dieu dans le texte de Philippiens chapitre 2, les versets 4 et 8. Philippiens chapitre 2, les versets 4 à 8. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et après s'être trouvé dans la situation d'un homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Que ces paroles puissent nous emmener à la réflexion et nous toucher à salut. Amen.
Bien, heureux de me retrouver devant vous. Vous êtes aussi heureux de me voir devant vous, n'est-ce pas? C'est agréable. C'est une belle journée. C'est toujours un plaisir de pouvoir échanger avec le peuple de Dieu et c'est impressionnant pour moi. Merci donc pour vos prières. Alors c'est l'histoire de quatre membres d'église. Alors bien sûr, ils font partie d'une grande église. C'est une très grande église. Une grande église connue. Alors peut-être qu'elle n'est pas en Europe, ça se trouve qu'elle est aux États-Unis. Mais en tout cas, c'est une très grande église. Et eux, ce sont quatre membres de cette église. Alors, je vous donne leur nom. Donc il y en a un qui s'appelle Tout le monde. Un autre s'appelle Quelqu'un. Le troisième s'appelle N'importe qui. Et le quatrième s'appelle Personne. Vous connaissez cette histoire, hein? J'aime bien cette histoire. Elle fait souvent écho à certaines choses. Alors cette église, bien sûr, elle a besoin d'argent. Ben oui, il y a l'électricité à payer, le chauffage. Et donc, le church board, le comité d'église, décide de solliciter les membres, la communauté, pour soutenir financièrement. Et donc, bien entendu, on fait appel à tout le monde. Et puis tout le monde se dit que oui, il n'y a pas de problème, je participerai, bien sûr, avec plaisir. Néanmoins, n'importe qui va participer aussi. Donc, il y aura forcément quelqu'un qui va participer. Et puis le temps passe, et finalement, la personne qui participe, c'est personne. Alors, il y avait le sol de l'église qui méritait d'être fait. Vous savez, parfois, avec le temps, il faut refaire le sol. Et donc, les responsables de l'église se réunissent. Voilà, il faut refaire le sol. On sollicite qui? Voilà, il y a un frère untel qui est bien. Il y a un sœur untel qui connaît telle société. Bon, faisons appel à quelqu'un. Alors, on sollicite quelqu'un. Voilà, écoute, quelqu'un, j'aimerais que tu puisses... t'organiser pour refaire le sol, on s'occupe de tout. Quelqu'un dit ok, y a pas de souci, moi je suis opérationnel. Et puis finalement quelqu'un se dit mais quand même, pourquoi c'est à moi de faire ce travail-là? N'importe qui pourrait le faire, n'est-ce pas? Et d'ailleurs tout le monde est concerné, c'est le sol de l'église. Et puis finalement le temps passe, il y a beaucoup de discussions, beaucoup d'échanges. Ça traîne, et puis c'est personne qui s'en charge. Et puis les choses continuent comme ça. Lorsqu'il s'agit de visiter les malades, c'est personne qui le fait. Lorsqu'il s'agit de donner un coup de main à l'église, on ne peut s'appuyer sur personne. Lorsqu'il s'agit de faire des travaux, de rendre service, personne n'est là. Et personne ne fait ça tellement bien. On se dit qu'il continue. C'est un membre idéal, personne, n'est-ce pas? Finalement, quelqu'un décide de quitter l'église et il prend avec lui n'importe qui et tout le monde. Et qui c'est qui reste dans l'église ? Personne. Vivre égale servir ou vivre égale profiter. Inclinons la tête, notre Dieu, notre Père, nous croyons que tu nous parles et que par la puissance du Saint-Esprit, tu nous conduis dans toute la vérité. Ô Seigneur, aie pitié de nous et parle à nos cœurs. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Ne perdons point de temps en regret. Tandis que la main du printemps nous caresse encore, ne pensons point qu'elle va se retirer. Profitons du peu de moments qui nous restent, buvons, chantons, aimons qui nous aime. Que les jeux et les rires suivent nos pas, et que toutes les voluptés viennent tour à tour, tantôt amuser, tantôt enchanter nos âmes, et quelque courte que soit la vie, nous aurons vécu. Ça, c'est une réponse possible qui a été présentée par un philosophe du 18e. Et pour lui, tout est clair. Les choses sont limpides. Son choix est arrêté. Il s'engage à fond dans sa voie. Vivre n'a de sens qu'à partir du moment où l'on profite au maximum des plaisirs. Alors, ça me rappelle une histoire. C'est un professeur qui la raconte. Vous savez, les histoires où la personne qui racontait très, très, très âgée. Et, tu sais. Et là, le professeur raconte l'histoire. Ce sont deux jeunes étudiants qu'il a eus pendant qu'il était enseignant. Et ces deux jeunes, qui l'ont marqué, avaient sur leur bureau un genre de devise qui était inscrit. Sur le premier, on pouvait lire « Vivre égale profiter ». Et sur celui de son voisin, vivre égale servir. Et le professeur, qui a bien connu ces deux étudiants et qui les a suivis pendant plus d'une vingtaine d'années, raconte leur histoire. Le premier a une jeunesse orageuse, une vie compliquée, à la dérive, un homme usé par le temps, rempli de déceptions. Pour le second, le professeur nous dit que sa vie semble se résumer par ce verset, Proverbe 4, 18. Le sentier des justes est comme la lumière de l'aurore, dont l'éclat ne cesse de croître jusqu'en plein jour. L'histoire ne nous donne pas plus de détails sur la vie de ce jeune homme qui était croyant. Mais peut-être que l'idée, c'est de nous laisser imaginer ce qu'a pu être sa vie. Deux philosophies donc qui s'opposent totalement, qui n'ont rien en commun. Vivre égale servir, vivre égale profiter. Deux visions déterminantes qui vont influencer la vie, les choix, l'état d'esprit et l'ambiance dans laquelle nous allons évoluer. Alors que nous pensons sans doute au type de philosophie qui me gouverne, je vous propose ce matin de réfléchir à la volonté de Dieu à ce sujet. Alors, il est bien évident que personne ne souhaite vivre la vie du premier étudiant, vivre égale profiter, une vie triste, désabusée, une vie amère. Mais comment éviter cela ? Alors, bien sûr, il y a dans la Bible des principes. Dieu nous dit dans sa parole qu'il souhaite nous voir heureux parce qu'il nous aime. Il souhaite nous voir épanouis. Il souhaite nous voir grandir. Et ce vœu qui doit devenir une réalité dans ma vie, forcément, il y a dans la Bible un mode d'emploi. Dieu souhaite que je puisse faire partie d'une église glorieuse, victorieuse. Et c'est ce que Jésus vient chercher. Jésus vient chercher une église glorieuse, resplendissante, en excellente santé. Une église remplie de personnes amères et à la dérive. Non. Une église, bien entendu, remplie de personnes joyeuses et contentes, épanouies par la grâce du Seigneur. C'est une réalité. Si Dieu le veut, le souhaite, le demande, c'est que ça peut devenir une réalité. Encore, faudrait-il que je me pose la question, Stéphane, crois-tu vraiment que l'Église du Seigneur peut être comme il désire qu'elle soit? Alors, quelle est la méthode de Jésus? Comment Jésus voit-il les choses? Je vous invite à prendre avec moi Marc chapitre 10. Évangile selon Marc, chapitre 10, et nous lirons à partir du verset 35. Les fils de Zébédée, Jacques et Jean, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, voilà, nous aimerions que tu fasses quelque chose pour nous. » Et on va te demander quelque chose, mais on aimerait que tu puisses le faire. On parle pas trop fort. Et Jésus répond, que voulez-vous que je fasse pour vous? Alors voilà, maître, oui, pas de souci. Accorde-nous, lui dirent-ils, d'être assis l'un à ta droite et l'autre à ta gauche, quand tu seras dans ta gloire. Alors nous passons au verset 41. Les dix ayant entendu cela commencent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appelle et leur dit, « Vous savez que ceux qu'on regarde comme les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les dominent. Il n'en est pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. » Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. » Ils ont du culot, hein, les fils de Zébédée. Hein. C'est quand même courageux. Écoutez, ils sont en train de demander à Jésus d'être assis à sa droite et à sa gauche. Or, le Messie est assis à la droite du Père. Il demande d'être aux premières places de l'univers. Ce n'est pas une petite affaire. Ils veulent être tout en haut, assis à la droite et à la gauche de Jésus. Alors bien sûr, c'est un scandale. Il y a ici les dix qui sont, le texte dit, indignés. Ils sont embêtés, mais comment ont-ils pu, comment peuvent-ils oser demander quelque chose comme ça? Moi, je pourrais même me dire, peut-être qu'ils sont indignés parce qu'ils n'y ont pas pensé avant. Hein. Là, ils ont été doublés sur le coup. Ben oui, parce que Pierre, qui semble se dégager à travers le récit comme étant le leader, n'est pas inclus là dans l'histoire. Hein. On nous parle des fils de Zébédée. Et puis, Marc 9, verset 33 nous dit, ils arrivèrent à Capernaum. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda, « Mais de quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. Ils ont discuté ensemble pour savoir qui est le plus grand, c'est qui le meilleur, c'est qui le plus intelligent, c'est lui, qui est celui qui mérite la première place. Et Jésus de répondre, « Mes amis, il n'en est pas de même au milieu de vous. Quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir. » Ici, il y a un principe qui se dégage. Alors oui, il y a des frictions dans ce groupe. Il y a peut-être quelques tiraillements. Mais nous avons le devoir en tant que disciples d'y faire attention et d'examiner si notre vie, notre démarche, notre manière de voir les choses ne correspondrait pas éventuellement à ce que les fils de Zébédée, voire les autres disciples, pensaient jusqu'alors. La place à occuper, la position, la grandeur, l'autorité, ne doit en aucune manière devenir une de mes prérogatives. Par contre, en tant que disciple du Seigneur, une de mes prérogatives, si ce n'est la plus grande, c'est d'être au service de Dieu, c'est d'être au service de mon prochain. Si je veux être grand parmi vous, je dois être votre serviteur. Si je veux être le premier, je dois être votre esclave. C'est l'évangile. C'est difficile l'évangile. C'est pas simple. L'évangile, ça touche le fond, le cœur. Ça fait tourner l'intérieur. Il ne s'agit pas d'une forme, d'une apparence. Il s'agit d'un travail que Dieu veut faire dans notre cœur, dans mon cœur, pour changer les paradigmes, pour transformer les moyens de pensée, les systèmes de vision que nous avons. Dieu veut faire ce travail-là en nous. Est-ce que je lui laisse la possibilité de faire ce travail ? Alors nous pourrions dire, Seigneur Jésus, c'est très joli ce que tu nous dis, c'est très beau, d'accord, il faut être le premier, ok. Et toi, qu'as-tu fait pour montrer que toi qui donnes des conseils, toi-même tu as vécu cela. Alors pour illustrer ça, puisque Jésus, je crois qu'en tant que fils de Dieu, il sait de quoi il parle, et s'il nous demande d'agir, c'est parce que lui a déjà agi de la sorte. Je vous invite à prendre avec moi Philippiens. La lettre de Paul à l'église qui était à Philippe. Et nous lirons les versets 4 à 8 du chapitre 2. Ce sont des versets que nous connaissons très bien. Ou bien ce sont des versets que nous croyons connaître. Lisons comme si nous n'avions encore jamais lu ces versets. En prenant le poids de chaque mot. Et ici, c'est Paul qui s'adresse à l'Église. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus. Existant en forme de Dieu, il n'a point regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il a paru comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Alors à l'époque de Paul, il y avait des prisons. Il y en a encore, hélas, aujourd'hui. Aujourd'hui, le principe de la prison, c'est de priver une personne de sa liberté. Voilà, la dette que la personne doit payer à l'État, c'est être privé de ses droits et de sa liberté. À l'époque de Paul, il y avait cet aspect privation de liberté. Mais la catastrophe de l'emprisonnement, le drame, c'était l'humiliation. Lorsque vous étiez emprisonné, vous étiez humilié. Vous étiez déshonoré. Et Paul, qui écrit ce courrier, est en prison. Il subit cette humiliation, ce déshonneur. Il est un leader d'église, un dirigeant. Mais il est dans les chaînes. Ce n'est pas compatible. Un dirigeant, un leader, doit jouir de ses droits, doit être en haut. Et lui, Paul, il est déshonoré. Et certains dans la communauté de Philippe se disent, mais attendez, comment se fait-il que nous ayons encore un leader qui soit aussi à un tel niveau dans la société, aussi bas? C'est pas normal. Et Paul va expliquer que, mes amis, je vous aime énormément. Vous êtes une église qui me fait beaucoup de joie. Vous me donnez beaucoup de plaisir lorsque je pense à vous. Seulement, je souhaite qu'il n'y ait pas parmi vous des gens qui veulent servir d'abord leur ventre. Et Paul, qui a son caractère, il les appelle des chiens. Prenez garde aux chiens. Philippiens 3, verset 2, vous pouvez vérifier. Prenez garde aux chiens. Prenez garde aux mauvais ouvriers. Prenez garde à ces personnes qui, en faisant mine de servir l'Église, finalement se servent de l'Église, se servent de l'Évangile, plutôt que de servir l'Évangile. Et Paul de dire que ce n'est pas une catastrophe que je sois dans les chaînes, c'est une bonne chose. Plusieurs ont compris. Et il donne l'exemple de Jésus. Regardez Jésus. Et là, on se met dans le système de pensée de l'époque. Le déshonneur. Regardez Jésus. Égal à Dieu. Jouissant de la gloire unique que seul Dieu doit recevoir. Il a accepté de s'humilier en devenant un homme. Alors qu'il est créateur, il accepte de devenir créature. Et c'est même pas suffisant, il accepte de subir l'humiliation absolue. La meilleure manière d'être humilié, déshonoré, c'était d'être cloué sur le bois du calvaire. Vous étiez, d'après l'Ancien Testament, maudit de Dieu, cloué au bois, et vous étiez aux yeux de la société, déshonoré, humilié, un moins que rien. Et regardez Jésus. Il a accepté de subir tout ça, d'être humilié et déshonoré. Il a accepté de devenir obéissant jusqu'à la mort de la croix. Et c'est pourquoi, il nous dit, verset 9, « Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » L'Évangile est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle pour nous tous, pour nous qui avons choisi Jésus et qui allons l'officialiser bientôt. Bonne nouvelle aussi pour ceux qui n'ont pas encore rencontré Jésus. Et pour ces personnes-là, le meilleur moyen pour qu'elles rencontrent Jésus, c'est à travers mon témoignage, à travers la manière dont je vais vivre mon évangile, la manière dont je vais vivre mon évangile à l'église. Comment vais-je servir? Jusqu'où suis-je prêt à servir Jésus? Lorsque tout va bien, et lorsque finalement on se retrouve tout seul à devoir refaire le sol de l'église. Nous avons notre système de pensée naturel qui est tourné vers nous-mêmes, c'est vrai. Mais je crois que Dieu a la possibilité de transformer nos cœurs, de faire de nous, ou de continuer à faire de nous, des sources de bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Je lisais sur CNN, donc vous êtes au courant, Dylan, un jeune qui a tué 9 personnes dans une église. Donc il comparait au tribunal pour lui signifier les charges qui sont retenues contre lui. Donc lui, il est emprisonné, donc il est dans un pénitencier, donc il n'est pas sur place, donc il y a une vidéoconférence, donc on le voit à l'écran. Il y a le juge, huissier, tout ça, et il y a des membres de la famille. Et les membres de la famille peuvent s'exprimer. Et parmi ces membres de la famille qui s'expriment, il y a la fille de Ethel, c'est une dame qui a été tuée, et qui dit, je ne pourrai plus jamais serrer ma maman dans mes bras, mais je te pardonne. Il y a quelqu'un d'autre qui dit que la haine détruit, mais je crois que Dieu peut te pardonner. Ça, c'est l'évangile, ça. C'est compliqué, l'évangile. Et je veux que moi, Stéphane, je puisse réaliser que sans l'aide de Dieu, l'évangile ne sera jamais une réalité dans ma vie. Mais si je fais appel à Dieu, je crois que par la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur peut faire des miracles dans ma vie. Le Seigneur peut faire des miracles pour nous ici à Damari et faire en sorte que notre service puisse être quelque chose d'efficace, de bonne odeur. Faire en sorte que le Seigneur, lorsqu'il reviendra, puisse me dire « Bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses. Voilà, je te confie des biens. Rentre dans la joie de ton maître. » Que Dieu nous bénisse ainsi et que le Saint-Esprit puisse continuer à nous toucher et nous faire du bien. Amen.